Les pieds sur terre, Sonia Grønlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Elles écrivent à Méni et elles lui téléphonent entre 1967 et 1981 sur RTL en direct. Elles lui confient leur intimité, leur couple, leur sexualité qui est en train de trouver ses mots et d'apparaître dans la sphère publique. Au commencement, en particulier entre 1967 et 1975, l'émission connaît un succès phénoménal. Chaque début d'après-midi, pendant une demi-heure, Méni accompagne la libération de la femme en défendant ce que Dominique Cardon appelle le droit au plaisir et le devoir d'orgasme. Méni fait aussi la promotion auprès du grand public de la psychanalyse et autres psychothérapies. À partir d'octobre 1973, d'ailleurs, Méni Grégoire ajoute une seconde émission d'une demi-heure qu'elle appelle « Responsabilité sexuelle ». Elle est maintenant accompagnée d'un expert, toujours de sexe masculin. Un psychanalyste, un psychothérapeute, un sophrologue, un spécialiste de la transe, de la gestalt, du psychodrame, mais le plus souvent un sexologue. Ensemble, ils apportent des réponses appropriées aux auditrices et auditeurs et forment des duos anthologiques. Méni milite pour l'émancipation de la femme, mais lui pose des limites qui relèvent à la fois de l'époque, de normes sociales et de convictions, et qui, avec le recul, apparaissent pour certaines plutôt conservatrices. L'émission du 10 mars 1971, par exemple, intitulée « L'homosexualité, ce problème douloureux », est restée célèbre pour avoir été interrompue par des militants homosexuels présents salle Pleyel, d'où elle était diffusée en direct. Un enfant a besoin d'un père et d'une mère, où il ne s'en remet pas vraiment, dira également Méni. Ajoutez à cela son fervent plaidoyer en faveur de la maternité, dont elle affirme aussi « la maternité, c'est nous, c'est notre forme d'humanité ». Mais que cela ne nous empêche pas de mesurer le chemin qu'elle fait accomplir à la condition de la femme pendant toutes les années 70, tout de suite c'est dans les pieds sur terre, Méni donne aux femmes une voix, un sens, un corps, et c'est une monographie réalisée et proposée par Delphine Saltel.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent.
RTL, 15h, 5 minutes. Méni Grégoire répond à votre courrier.
Chère madame, j'ai 40 ans, mariée depuis 19 ans, et nous avons 4 enfants. Mon mari a beaucoup de qualités, sobre, travailleur, honnête. Moi, je reste à la maison, et quoiqu'étant de situation modeste, nous vivons convenablement. Mon drame, le voici. Chez mon mari, il n'y a pas de place pour la tendresse. Il passe des soirées entières la tête dans un livre ou à chercher des mots croisés.
Cher Méni, depuis un mois, je vis un véritable cauchemar. Il m'arrive quelque chose qui est pourtant naturel dans la vie d'un couple qui s'aime. J'attends un second enfant. Je ne désire pas cet enfant, je n'en veux pas. Alors je voudrais vous poser une question. J'ai encore des médicaments datant de mon premier accouchement. À forte dose, ils provoquent l'accouchement. Ai-je le droit de les prendre maintenant? Vous êtes droite, je sais que vous me répondrez sincèrement.
Madame Méni, je crois que je vous ai envoyé aujourd'hui la lettre que je veux faire depuis des années. Elle ne traduira jamais ma désespérance, mon dégoût, mais il faut que je l'écrive. Je suis dans le cas de millions de consoeurs, fortes de ce troupeau derrière moi. Vous l'avez deviné, je suis frigide.
Votre drame, Yvette, vous me lites, c'est votre cœur de femme qui est brûlant, qui brûle de tendresse et qui a l'impression de vivre au pôle Nord, en tout cas dans un désert. Pourquoi est-ce que vous en êtes là, au bout de 19 ans? Moi, j'ai bien réfléchi à votre lettre et je crois que je le sais.
Cher Méni, mon premier enfant est né en 1957. J'étais jeune et inexpérimentée et c'était un enfant difficile qui refusait toute nourriture et pleurait toutes les nuits. Quand il eut 15 mois, je me trouvais de nouveau enceinte. C'était tôt. Mais j'ai accepté, c'était une fille. J'étais folle de joie, mais cela suffisait. Je ne pouvais pas repousser mon mari. Il ne l'aurait pas accepté. Et puis, je l'aimais. C'était en 1959. En France, on ne savait rien. Et le cauchemar commença. 6 mois après la naissance de ma fille, je me retrouvais enceinte. Piqûre. Tout rentra dans l'ordre. Un an après, ça recommence. Les piqûres échouent. Une infirmière pour 70 000 anciens francs interrompt la grossesse. 6 mois plus tard, alors que je m'étais mise à travailler au dehors, je suis enceinte. Je me sens honteuse d'être comme une lapine, toujours prête à mettre bas. Mon mari est un homme gentil, amoureux, qui parle peu, mais je le sais malheureux comme moi. Il ne sait que me dire. Alors j'avale n'importe quoi. Pendant 2 jours, je reste dans un opaque brouillard empoisonné, perdu. Douleur atroce. Mes tempes battent à éclater. Enfin, mes règles arrivent. Je revis. 10 jours, car je fais des hémorragies. Je me retrouve en clinique, saignant comme un bœuf. Une demi-heure après le curetage, je reprends ma voiture et je rentre à la maison. C'est à cette période qu'une amie, qui en a subi encore plus que moi, me parle de la pilule encore inconnue. J'en achète un flacon en pharmacie, mais je ne sais pas m'en servir, le docteur non plus. Nous sommes en 1960. En 1962, ça recommence. Mon docteur, si compréhensif, refuse de m'aider. Je le supplie. Devant mon désespoir, il me dit « Revenez me voir quand il y aura du sang. Il faut que je me débrouille toute seule. » Résultat, 2e curetage. La 6e fois où je me suis retrouvée enceinte, je commençais à être fataliste. Je savais que personne ne m'aiderait. Je me suis réveillée dans la nuit, grelottante. Mes dents claquaient à se fendre et mon mari dormait près de moi. Je ne voulais pas qu'il me voie ainsi. J'attendais sans bouger, car c'était marche ou crève. Mon 4e curetage a eu lieu dans un hôpital en 1967 avec infection. Un gynécologue envisageait pour moi une solution définitive et chirurgicale si j'avais été plus âgée. Il me conseillait la pilule. Depuis, je la prends et je vous assure que je ne l'oublie pas.
Vous voyez, c'est un document. Alors moi, encore une fois, je ne juge pas. Je vous livre ce document parce que je trouve qu'il méritait d'être livré. Et pour qu'il serve surtout. Jusqu'à la contraception, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, ce que vous avez entendu, c'était la vraie vérité. La vérité qu'on cachait, mais la réalité quotidienne et banale. Personne n'imagine jusqu'à quel degré de folie une femme peut arriver et à quel point elle peut perdre la tête, la conscience et tous ses principes dans une situation pareille. Elle a agi 7 fois contre sa conscience. Alors pourquoi ? Parce que si elle ne l'avait pas fait, à 35 ans, elle a à peu près 35 ans, elle aurait 9 enfants. Et il faut tout de même dire que la nature, c'est ça, la profusion, l'excès. La nature, il faut que ce soit maîtrisé. Sinon, si vous ne la maîtrisez pas, c'est elle qui vous maîtrise. En conclusion, je vous pose une question à tous. À vous qui avez peur et qui vous demandez si on ne pourrait pas se passer de contraception, qu'est-ce qui vaut le mieux ? Recourir à des moyens contraceptifs, même imparfaits, ou se mettre dans la situation de faire et de vivre ce qu'a vécu cette femme ?
Eh bien maintenant, voici les appels en direct, mais dites toujours sur ce problème de la contraception.
Allô ?
Madame Ninier Grégoire ?
Oui, bonjour madame.
Bonjour madame, dites-moi, je vous téléphone au sujet de la pilule.
Oui.
C'est le problème du carnet à souche.
Du carnet à souche,
oui.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui, vous avez raison de soulever ça.
Je trouve ça très curieux.
Il faut qu'on mette leur nom sur un carnet,
oui,
et qu'on ait la liste de toutes les femmes qui font ça comme si c'était des criminels.
Exactement.
Hein.
Ouais. Alors je me dis, ces messieurs, est-ce qu'on leur demande tout ça ? J'ai jamais vu ça. Pourquoi les hommes ont-ils le droit de se protéger de la paternité, disons ?
Oui.
Et les femmes, pas les femmes.
C'est une petite vengeance.
Quand on fait des erreurs, c'est même bien nous qui traitons.
Et c'est une petite vengeance, je crois, des hommes. Parce qu'en prenant la pilule, il est évident qu'on prend la responsabilité toute seule.
Mais oui, c'est
vrai. Et on leur a enlevé quelque chose, étant donné que c'était eux les hommes qui l'avaient avant. Et il y a des hommes à qui ça ne plaît pas. Et c'est ceux-là qui ont inventé le carnet à souche, croyez-moi. Il y a des femmes en province qui sont obligées de faire un petit voyage pour aller dans la pharmacie de la ville voisine. Vous savez, il faut se battre pour que la mentalité change, pour qu'on laisse les gens libres, vraiment libres. Vous avez dit, elle est libre, la contraception.
Vous savez que je connais encore des vieux docteurs, enfin des hommes assez âgés, qui répondent à une jeune femme qui vient leur demander des renseignements. Eh bien, ma cocotte, si tu ne veux pas d'enfant, t'as qu'à pas coucher avec ton mari.
Que le mari n'a plus qu'à aller ailleurs, et est-ce qu'on trouve ça mieux ?
Peut-on dire quelque chose aussi bête ?
Oui, oui, ça, merci madame. Je crois que vraiment, pour une fois, les femmes se défoulent. Hein,
eh bien oui, il faut bien.
J'en suis ravie madame, vous avez très bien fait, je
voilà.
Vous dis merci, je suis bien d'accord.
Au revoir, madame.
Au revoir, madame.
Le printemps. printemps est là.
Vive le printemps et vive les recettes printanières que vous propose Astra Superfine. Des recettes alléchantes, comme le canard braisé au petit pois. Pour recevoir votre guide de recettes printanières, il suffit de lire attentivement les renseignements sur les paquets fleuris d'Astra Superfine.
Chers amis, bonjour. J'ai aujourd'hui une lettre d'une franchise si brutale sur ce qu'on ne dit jamais, qu'on en reste un petit peu pantelant. C'est une femme d'un petit pays, ou de campagne, elle ne dit pas, qui vise la vie qu'on dit la vie d'hier, une vie qu'on dit dépassée. Et elle ne sait pas, bien sûr, elle, que c'est dépassé, que tout a changé. Elle ne sait pas que si ça n'a pas changé, ça va changer. Et je vous assure qu'elle en a lourd sur le cœur de ces rapports-là.
Mehdi Grégoire répond à votre courrier.
Cher Méni, de tout cœur, je vous remercie. La femme a tant besoin d'être défendue. Pas grand monde ne s'en soucie. Je vais vous parler d'une chose terrible. Mon cas, j'ai 2 enfants. 50 ans et un mari qui a toujours eu recours au procédé le plus simple pour nos rapports, c'est-à-dire qu'il vient me chercher quand ça lui plaît, sans s'occuper de rien d'autre. Ça ressemble fort à ce qui se passe au poulailler. De quoi il résulte des souffrances atroces. Et pourtant, quand ces messieurs s'adressent à la jeunesse, ils sont bien obligés et bien heureux de se mettre en frais. Après ça, on trouve drôle que les femmes ne veulent rien entendre des hommes. Combien j'aimerais vous entendre parler de ça. Et combien vous rendrez service en éclairant ces messieurs. Car ils vous écoutent, n'en doutez pas. Le mien ne vous manque pas et prend beaucoup de plaisir à votre émission. Si vous le permettez, je vous embrasse de tout cœur.
La chose la plus terrible là-dedans, c'est qu'on me demande à moi ce qu'on devrait demander à son homme, les choses qu'on ne lui demande pas. La chose terrible, c'est que tant de femmes aient accepté pendant 30 ans, 40 ans, tout le temps, d'être traitées comme au poulailler, c'est fort bien dit. La chose terrible, c'est qu'elles aient dit oui au lieu de dire non, on ne me prend pas comme ça, s'il te plaît, autrement. Elles n'ont rien dit. Parce qu'hélas, mesdames, qu'est-ce qui apprend aux hommes comment on traite les femmes? C'est leurs femmes d'abord. Ils ne peuvent pas savoir tout seuls, alors si vous acceptez tout. C'est pour ça que je pense que la première femme qui se laisse faire comme un objet, sans protester, est responsable de ce qui lui arrive après. Et elle est malheureusement responsable de ce qui arrive aux autres, parce qu'elle donne de mauvaises habitudes. Alors je sais très bien ce que vous allez me dire, vous et les autres. Vous allez me dire ce qu'ont dit toutes les femmes du monde depuis toujours. Mais si j'avais refusé, ils seraient allés chercher ailleurs. Eh bien c'est là où les femmes se trompent et se sont toujours trompées. Parce que ce qu'on a sans peine, ça n'a pas de valeur. C'est ce qu'on a gagné qui a du prix. Qu'est-ce que vous voudriez que je dise maintenant à votre mari qui a plus de 50 ans, même s'il m'écoute? Il me répondra, mais écoutez, ça fait 30 ans qu'elle trouve ça bien, qu'elle accepte, elle aurait quand même pu le dire plus tôt, maintenant c'est trop tard. Je peux lui dire, je peux lui faire entendre votre lettre. Mais c'est à vos enfants qu'il faudrait dire quelque chose. C'est à votre fils, si vous avez un fils, ou vos fils, si vous en avez deux. Les jeunesses, comme vous dites, elles exigent des attentions, et même des cadeaux. Ça vous choque un peu, et vous avez tort. Parce qu'elles élèvent leurs hommes, finalement, bien mieux que ne l'ont fait leur mère.
Foudroyante chute des prix de Lénor, le meilleur adoucissant textile. Vite, faites des réserves. Lénor a des prix jamais vus dans les meilleurs magasins. Lénor, la meilleure qualité pour un adoucissant textile.
Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, samedi, nous avons un psychodrame. Qu'est-ce que c'est qu'un psychodrame ? C'est un mur qui s'écroule. On met ensemble des auditeurs, qui sont des volontaires, que je ne connais pas, qui ne se connaissent pas, et ils vivent ensemble pendant une heure, derrière leur masque, quelque chose qui les touche vraiment. Il y a là aujourd'hui 2 hommes et 3 femmes d'âge divers. Ils ont tourné autour du même thème, un couple en est arrivé à ne plus communiquer du tout au bout de 30 ans.
Je n'étais jamais préoccupée de ce que je pensais, de ce que je sentais. Depuis si nombreuses années, je ne comprends pas. Tu ne sais pas si je suis heureuse, ça t'est égal au fond.
J'ai essayé d'établir un contact. Je me suis peut-être mal pris, mais enfin, il me semble que ton vrai problème, c'est que, en fin de compte, tu m'as aimé et tu as été attirée vers moi.
Alors, bien sûr, je ne t'aurais pas épousée sinon.
Tu t'es détachée de moi parce que finalement, il y a eu une cassure à un moment donné.
Mais tu m'as toujours laissé diriger tout dans la maison, m'occuper de tout. Au fond, c'était moi qui étais l'homme.
Est-ce que tu étais heureuse avec moi physiquement?
Oh, passive, disons. T'en es d'ailleurs jamais rendu compte. J'étais très content comme ça. On fait partie d'une génération où, enfin, ces choses-là étaient. Tu m'en parlais pas.
Tu penses que je me suis jamais posé de questions? C'est ma première expérience. Il est possible que je me rende pas compte. Qu'est-ce que c'est le plaisir physique pour une femme? À ce moment-là.
Mais tu sais.
En m'aimant et parce que tu m'aimes. Pour pas que j'ai l'air d'un imbécile.
Je t'aimais. Mais tu sais bien que maintenant je n'ai plus que de l'affection pour toi. Le problème n'est pas là. Je trouve toujours que je suis parfaite et fais la politique de l'autruche. C'est ça que je te reproche le plus.
Parce que tu penses que à partir du moment où j'ai des problèmes avec toi, j'ai.
Mais si, cherché ailleurs. Été... Pas du tout. Au contraire, tu fais tout pour me rendre jaloux et je le suis pas. Jalouse et je le suis pas du tout.
Mais si tu n'aimes pas.
Je n'ai jamais été jalouse. Je ne suis pas jalouse de personne.
Si j'avais su te rendre une femme, te révéler à toi-même, je serais jalouse.
C'est curieux ce lapsus.
Tu fais tout pour me rendre jaloux et je le suis pas. Jalouse et je le suis pas du tout.
Vous savez ce que c'est qu'un lapsus?
Oui.
C'est quelque chose au fond de soi-même qu'on veut retenir et qui sort tout seul. Autrement dit, si quelqu'un était jaloux dans votre couple, qui c'était?
Oh, c'est lui, mais pas moi.
Voilà.
J'ai toujours mis le côté physique tout à fait à part. C'est que je suis beaucoup plus mère qu'épouse.
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est tout de même très très important dans votre histoire?
Certainement.
Marc,
oui, alors...
je voudrais que vous me disiez ce que vous avez pensé, ressenti, vous qui étiez le mari dans cette histoire.
Je me suis senti très pâle, très gêné. Au bout de ces 30 ans, beaucoup de femmes, compte tenu de leur éducation, compte tenu de ce qu'elles ont entendu, ont un complexe. Elles font semblant. Il faut qu'un homme ait beaucoup d'expérience pour se rendre compte si une femme est heureuse.
Qu'est-ce que vous pensez de ces mensonges qu'elles font indéfiniment aux hommes depuis des siècles?
Je trouve que c'est très malheureux. Finalement, l'homme est responsable de tout ça.
Moi, je défends les hommes. Et qu'est-ce qui vous aurait appris à vous, les hommes, à faire autrement que de prendre des femmes comme...
Est-ce qu'il faut que je...
Que faisait votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père?
J'ai une chance inouïe, j'ai eu un ami qui m'a donné l'exemple. Il m'a dit, ce n'est pas ça. Le rôle d'une femme, c'est de... Bon, c'est pas un rôle passif, c'est un rôle à
50%. 50-50.
Un homme, une femme.
Et ça s'appelle un couple. C'est cette révélation à condition qu'on ose tout dire. Et c'est pour ça que dans notre émission quotidienne... Au risque de choquer, quelquefois, on cherche, on traque, on dit et on continuera à dire la vérité.
Si vous ne chantez plus dans votre salle de bain, consultez Jacob Delafont.
Les salles de bain Jacob Delafont vous proposent leur succès à la mode.
Des baignoires encastrées pour les bains japonais.
Des baignoires de repos avec tablier d'angle.
Des lavabos double profilés.
Des robinets mélangeurs thermostatiques chromés.
Et des installateurs en or.
Allez les voir dans l'une des 150 expos conseils chapés Jacob Delafont.
Vous chanterez sur tous les tons dans une salle de bain Jacob Delafont.
Grégoire répond à vos appels téléphoniques.
Allô?
Oui.
Bonjour madame.
Bonjour Minnie.
Alors.
Bonjour madame.
Bonjour docteur.
Alors allons-y, on vous écoute.
Oui, alors voilà, j'aurais aimé savoir ce que veut dire faire de la psychothérapie.
Faire de la psychothérapie?
Oui.
Pourquoi est-ce que vous nous demandez ça?
Ben, parce que c'est un docteur qui le conseille à mon mari.
À votre mari?
Oui.
Et pourquoi?
Mais parce qu'il n'a pas d'appétit sexuel.
Quel âge avez-vous tous les deux?
Il a 44 ans et moi 42.
Depuis quand est-ce qu'il est comme ça?
Plusieurs années. Les débuts, ça allait très bien. Et puis, je sais pas, ça s'est dégradé.
Une espèce de baisse de l'intérêt?
Oui.
Pour le sexe?
Oui.
Vous n'avez pas la moindre idée de la façon dont ça a commencé?
Ça fait à peu près quoi? Ça fait 18 ans qu'on est mariés.
Oui. Et... Pendant 15 ans, ça a été un accord parfait.
Pendant 3-4 ans.
Pendant 3-4 ans seulement?
Ah oui.
Et ça fait 15 ans que ça ne va plus?
Oh oui, et puis j'ai toujours espéré.
Et vous souffrez beaucoup parce que vous êtes privée.
Ah oui, et alors faut pas lui parler de ça, ça le rend méchant en parole.
Ah.
Quel genre de mots il prononce?
Si t'es pas contente, je partirai ou t'as qu'à t'en aller, et puis voilà.
Mmh. Écoutez, moi je voudrais savoir, vous vous êtes épanouie sexuellement très vite, dès le début de votre mariage?
Ah oui, tout de suite.
La nuit de noces?
Ah oui, je peux dire j'ai une très grande richesse de ce côté-là.
Oui, oui.
Quand ça se passe bien, j'ai deux gros orgasmes à la fin, quoi, quand c'est formidable.
Mais vous n'avez plus de rapport sexuel du tout avec votre mari?
Si, deux fois par semaine.
Deux fois par semaine?
Oui, mais pour me faire plaisir, alors ça dure quoi, 10 minutes, un quart d'heure, quoi.
Eh, c'est pas si mal, madame. Je me demande si votre sensualité, qui est très épanouie, ne fait pas un peu peur à votre mari. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir ça?
C'est pas trop fort pour lui. Oui.
Vous aimeriez, vous, que ce soit tous les jours ou plus?
Oh, moi, tous les jours, ça me gênerait pas, même deux fois.
Même deux fois, voilà. Et il le sait, ça?
Ah oui.
À quoi vous rêvez la nuit?
Oh ben, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de rêves. Comme par exemple, l'autre nuit, j'ai rêvé que je voyais une grosse fraise au bout d'une longue tige.
Oui, ben tout ça, c'est des rêves absolument sexuels. Vous rêvez de sexe à l'état pur. C'est-à-dire que vous avez des besoins sexuels considérables.
Et vous êtes frustré?
Ah oui, énormément.
Écoutez, moi, je voudrais vous faire réfléchir un peu. Parce que vous êtes toute seule à vous débattre, comme vous dites, alors que deux fois par semaine, vous avez un mari qui, pour vous faire plaisir, ne demande pas mieux que de vous faire l'amour pendant un quart d'heure. C'est déjà pas si mal, enfin. Oui. On a tellement l'habitude d'entendre des femmes ou des hommes qui sont vraiment frustrés qu'on ne peut pas être tellement ému. Si vous voulez, votre mari n'est pas un cas pathologique. Il y a un problème entre vous, ça c'est sûr. Mais votre mari n'est pas un cas pathologique. Un monsieur qui deux fois par semaine honore sa femme, il y en a beaucoup qui s'en contenteraient. Seulement vous, pour vous, c'est pas assez. Qui vous dit que cette absence de désir ne vient pas justement de ce qu'il sent, une trop grosse demande à laquelle il ne peut pas satisfaire parce qu'il n'en a pas les moyens?
J'entends que vous souffrez beaucoup de cet état et...
Oui, énormément, ça devient une obsession. Oui, je pleure souvent.
Ça devient une obsession et c'est... Vous avez prononcé un mot qui est très important. Il faut que vous aussi, vous alliez aux séances de psychothérapie parce que quand ça devient une obsession, ça n'est plus tout à fait dans l'ordre.
C'est parce que j'en manque,
Oui, vous en manquez, mais enfin, vous en avez deux fois par semaine et c'est devenu obsessionnel. Il s'est passé tout de même un petit phénomène un peu pathologique. Parce qu'enfin, la sexualité est une partie de l'amour et une partie de la vie, une partie importante, mais n'est pas tout.
Bah, c'est tellement agréable.
Et c'est devenu... c'est tellement agréable. C'est joli de vous entendre dire ça, c'est pas souvent qu'on l'entend. Oh, ben... C'est vrai que c'est tellement agréable, mais ce n'est pas toute la vie.
C'est quelque chose qui est formidable et je plains les personnes qui ne connaissent pas ça.
Oui.
Quand on a une telle demande sexuelle, c'est qu'il y a quelque chose derrière cette demande sexuelle.
Ou peut-être une activité, ou peut-être un épanouissement de vos possibilités personnelles. Vous ne travaillez pas?
Et à mi-temps, je suis secrétaire.
À mi-temps, oui.
Bien, ben, allez en groupe, madame, et faites de la psychothérapie de groupe, et vous trouverez qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de votre couple.
Oui.
Et en vous, j'insiste, à vous connaître mieux, et à faire l'autocritique de votre couple. De votre problème de couple, qui n'est pas tellement grave, mais qui pourrait le devenir si vous insistiez.
Il ne faut jamais rester avec une obsession.
Oui. Au revoir, madame.
Au revoir, docteur. Au revoir, Mimi.
Au revoir, madame.
Beaucoup de femmes auraient aimé porter des bas qui tiennent seuls. Oui, mais... Il n'y a plus de oui mais. Aujourd'hui, le Bourget présente Top Liberté, son nouveau bas sans jartelle. Ce Top Liberté, vous l'ajustez vous-même à vos mesures pour qu'il ne comprime pas la jambe. Et comme le Bourget l'a pourvu d'un nouveau revers anti-glisse, Top Liberté ne descend jamais.
RTL, 15h, 5 minutes. Mehdi Grégoire répond à votre courrier.
Madame Mehdi Grégoire, 32 ans, célibataire, situation HEC, farouchement indépendante. Mon ami de 9 ans plus âgé, célibataire, situation libérale. Notre liaison a commencé il y a 8 ans. 3 ans après, il désirait m'épouser. Lucide, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que pas de cohabitation, pas d'habitude, pas de routine. Me refuse à devenir la femme meuble que l'on ne voit plus. Me refuse à être enfermée entre l'évier, la cuisinière, le placard à balai et les couches à laver. Notre harmonie est parfaite. Nous ne nous voyons que lorsque cela nous fait plaisir. Condition majeure pour maintenir un parfait équilibre. Sincèrement, je plains les malheureuses qui s'accrochent désespérément à un homme dans l'espoir de se faire épouser. Vous qui bataillez pour la libéralisation de la femme, secouez-les. Et dites-leur bien haut que devenus les préposés légitimes choisis pour recoudre les boutons, s'en sera fini et de leur indépendance et de leur bonheur.
Je ne vais pas rire de cette lettre. Je dois dire, sincèrement, que si je repense à vos lettres, les lettres qu'on ne lit pas sur l'antenne, je me dis que ce n'est pas tout à fait faux. Des femmes qui vivent le mariage comme une destruction, elles sont pas rares. À notre époque, en 1969, il y a trois mots clés qu'elles prononcent tout le temps. Il y a le mot bonheur, le mot liberté et le mot plaisir. Et elle dit « Je n'ai jamais trouvé cette ambiance dans la vie conjugale ». Eh bien, c'est la plus terrible accusation que j'ai jamais reçue de cette institution du mariage et de nous tous, de la façon dont on la vit. Et je crois que nos enfants auront peut-être, dans certains cas, le droit de nous lancer au visage des lettres comme celle-là, si nous n'inventons pas une autre image, une autre façon de vivre ce sort commun. Et je crois qu'il faut qu'on l'invente si on veut avoir demain des femmes et après-demain des petits-enfants. Ah,
c'était Allô Méni, une collection d'archives réunies et présentées par Delphine Saltel, réalisée par Alexandra Malka, avec un coup de main de François Connac et diffusée pour la première fois en 2013. Merci à Madame Ève Allôme, la fille de Méni, aux archives départementales de l'Indre et Loire, à Anne Desbalmorches, à Joël Péris et à Michael Baigneux. C'est Camille Richir, l'attaché de production des Pieds sur Terre, et c'est Lorenzo Cucchiaro, notre stagiaire.
Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah, yeah. Con 24.000 baci, così freddi per amore, in questo giorno di follia, ogni minuto è tutto mio. Con 24.000 baci, felici con l'onore. Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Yeah.